France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 24e chapitre, un Orphée noir et beaucoup de saudade, c'est le Brésil des années 50. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. En ce mois d'octobre 1955, l'État du Minas Gerais fait la fête. C'est une grande victoire pour son gouverneur, Juscelino Kubitschek. Il est élu président de la République le 3 octobre, après bien des péripéties, dont une tentative de coup d'État. Et son slogan est resté célèbre, 50 ans de progrès en 5 ans. Tout cela en poursuivant l'industrialisation du pays à un rythme soutenu. Les 4 années du mandat du président Kubitschek sont ainsi placées sous le signe de la stabilité, car c'est en plus un grand conciliateur. Il annonce la fondation d'une capitale à l'intérieur du pays, un véritable serpent de mer depuis la fin du XIXe siècle, et elle s'appellera Brasilia. Kubitschek prend officiellement ses fonctions le 23 janvier 1956. Son souvenir est indissociable de ce qu'on a appelé les années dorées, pendant lesquelles les classes moyennes s'enrichissent et découvrent les joies de la consommation et du confort. Le Brésil est en passe de devenir un modèle pour le tiers-monde. Et l'une des nouvelles chanteuses populaires emblématiques de cette période, c'est la belle Angela Maria, élue reine de la radio en 1954 à l'âge de 26 ans, ce qui au Brésil est déjà une consécration. Son grand succès, Vida de Bailarina, évoque les conditions de vie très dures des danseuses de cabaret dans les nuits de Rio. Une samba canção, donc très proche du boléro, qui sera reprise 18 ans plus tard par Elise Regina. La musique populaire à Rio est à un grand tournant de son histoire.
Quem te será a cortina da vida da bailarina? Há de ver cheio de horror que no fundo do seu peito existe sonho desfeito ou a desgraça de amor. Os que compram o desejo pagando amor a varejo vão falando sem saber que ela é forçada a enganar, não vivendo pra dançar, mas dançando pra viver. Obrigada pelo ofício a bailar dentro do vício como lírio em lamaçal. É uma sereia vadia, prepare noites de orgia, o seu drama passional, fingindo ser que gosta de ficar à noite exposta sem escolher o seu par. Vive uma vida de louca com um sorriso na boca e uma lágrima no olhar. Thank you.
Les chanteuses et les chanteurs de charme, les crooners, sont ainsi très à la mode à Rio. C'est ainsi que le jeune chanteur et guitariste João Gilberto se joint au groupe de ses amis Luis Teles et Luis Bonfa au casino de Urca, où ils interprètent des succès des Pampas du Rio Grande do Sul, d'où ils sont originaires. Une région où João va partir avec eux se ressourcer, car en ce début 1955, il est totalement déprimé. À Porto Alegre, il se refait une santé et il devient même le guitariste incontournable des soirées de la capitale. Il y rencontre la plupart des musiciens et des compositeurs, et parmi eux sans doute le pianiste Nato N, qui a tant chanté son Rio Grande do Sul et qui allait décéder peu après, en 1958, à l'âge de 57 ans. Mais la dépression de João ne le quitte pas vraiment. Il se réfugie alors chez sa sœur dans le Minas Gerais, où il devra être interné un moment dans un hôpital psychiatrique. Dans ces années douloureuses, Porto Alegre est resté pour lui comme une oasis de sérénité. Feitiços, sortilège de Nato N, compositeur du Rio Grande do Sul par Olinda Alessandrini. La saison théâtrale à Rio poursuit son essor, d'abord à l'opéra. Et si les stars commencent à se faire rares, la création au Brésil de Porgy and Bess de Gershwin par une troupe noire américaine est l'événement de la saison. Et le théâtre dramatique voit éclore de nouvelles compagnies qui programment notamment des pièces de Jean Anouilh. Autre événement, l'arrivée du Théâtre National de Belgique en juin 1955 avec une belle programmation. Arthur Miller, Shakespeare traduit par Jean Anouilh, Monterland et pour la première fois au Brésil, une œuvre de Gelderode, son Barabbas. À São Paulo, deux compagnies théâtrales tiennent le haut du pavé. Le Teatro Brasileiro de Comédia et le Teatro de Arena. Ce dernier, sur le modèle du théâtre américain du même nom, où la scène est au milieu des spectateurs. En 1955, il a enfin sa propre salle dans le centre de la ville, quand l'acteur Augusto Boal, de retour de New York, où il a connu les mises en scène de Stanislavski, en devient le directeur. São Paulo est alors en passe de devenir la capitale culturelle du Brésil. D'autant plus que chaque année, la Biennale des Arts attire un énorme public très international. En 1956, le compositeur Camargo Guarnieri, très paulista, écrit un choro pour piano et orchestre où il mêle les tendres mélodies de cette musique populaire à des fanfares dignes d'un théâtre de rue. Caio Pagano au piano, l'orchestre de l'Université de Londrina, dirigé par Norton Morozovic, dans le troisième mouvement du choro pour piano et orchestre de Camargo Guarnieri. Depuis des années déjà, le poète Vinicius de Moraes est devenu le chantre de la ville de Rio de Janeiro. Tout au long de sa vie, et surtout quand il était à l'ambassade du Brésil à Paris, Vinicius de Moraes a vécu avec au cœur la saudade de Rio. Vers 1945, il commence à écrire des impressions et des poèmes sur sa ville. Il les réunit dans un recueil en 1952 intitulé « Itinéraire sentimental de Rio de Janeiro ». Pour lui, la ville s'offre, comme il l'écrit, dans un climat universel d'éternité, dans le contrepoint du mouvement de la mer et le mutisme millénaire de la pierre dans ses lointains infinis. Je veux jouer avec ma ville, je veux lui dire des bêtises, lui parler d'amour. Ma rue, elle est longue et silencieuse, comme un chemin qui s'en va. Elle a des maisons basses qui m'espionnent la nuit. Ma rue a des avenues sombres et laides, d'où surgissent des vieux papiers qui s'envolent affolés par le vent. C'est une rue comme tant d'autres, avec le même air heureux le jour et la nuit le même aspect un peu perdu. C'est la rue où je suis né. La valsa choro numéro 10 de Francisco Mignone, Luis Di Mora Castro au piano. C'est au célèbre bar Villa Villarinu, le rendez-vous des bohèmes de Rio, qu'un soir de l'été 1956, le poète Vinicius de Moraes rencontre enfin un certain Tom Jobim, dont lui a beaucoup parlé son ami le journaliste Boscoli. Il recherche un compositeur pour mettre en musique sa pièce Orfeu da Conceição, créée en 1954, qui transpose le mythe d'Orphée dans une favela de Rio. Vinicius écoute beaucoup Boscoli pour ce qui concerne le langage de la rue et des quartiers populaires, car lui-même, habitué des quartiers chics, est trop éloigné de la réalité brésilienne. Tom Jobim est ravi. Orfeu da Conceição est créé au théâtre municipal le 25 septembre 1956. Le décor, imaginé par l'architecte Oscar Niemeyer, est simple. Une rampe qui mène à un praticable qui représente le Morro, la colline de la favela, et à un escalier en spirale qui se transforme en baraque, là où vit Orphée. Les acteurs noirs sont formidables. Cela ne faisait pas longtemps que des acteurs noirs avaient des rôles de premier plan sur la scène du théâtre municipal. La dernière fois, C'était à l'occasion de la création sur la même scène de la pièce « L'Empereur Jones » écrite par l'Américain Eugene O'Neill en 1920 avec la même compagnie du théâtre expérimental noir de Rio de Janeiro. Orfeu da Conceição connaît un tel succès que le spectacle est prolongé dans un autre théâtre. Le chœur et l'orchestre symphonique de São Paulo dirigé par Roberto Minchuk dans l'ouverture de Orfeu da Conceição d'Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes. Dans la pièce qui se déroule durant le carnaval de Rio, Orfeu est un conducteur de tramway et un chanteur de samba adoré par tous. Il vit dans une favela qui domine la ville. Il est fou amoureux de la belle Eurydice. Son ancienne fiancée Mira, folle de rage, attise alors la jalousie d'un prétendant de cette jeune Eurydice. Pour se venger, ce dernier va jusqu'à l'assassiner. Pour la retrouver, Orfeu descend de la colline jusqu'à un club nocturne, les contremaîtres de l'enfer, mais il n'y retrouve pas sa bien-aimée. Dans la nuit, il gravit à nouveau les escaliers du morne où Mira, son ancienne fiancée, l'attend avec d'autres femmes. Telles les Euménides du mythe antique, elles mettent Orfeu à mort.
Não posso esquecer do teu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus, mulher amada, destino meu é madrugada. Sereno dos meus olhos já correu. Não posso esquecer o teu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver
é te esperar pra te dizer adeus.
Mulher amada, destino meu, é madrugada, sereno dos meus olhos já correu.
Madrugada, sereno dos meus olhos já correu. Longe dos olhos meus, longe dos olhos meus.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Deux extraits de la musique que Tom Jobim a composée pour la pièce de Vinicius de Moraes, Orfeu da Conceição. D'abord le Lamento par Roberto Paiva peu après la création de l'œuvre, puis la Macumba par l'Orchestre Symphonique de São Paulo sous la direction de Roberto Minchuk, enregistrée en public en 2002. La pièce a tellement de succès que le cinéaste français Marcel Camus, qui avait lié amitié à Paris avec Vinicius de Moraes, la transpose au cinéma en 1959 sous le titre Orfeu Negro. L'année 1956 voit les débuts d'une chanteuse populaire qui va beaucoup marquer son époque. Tout le monde l'appelle de son prénom, Maïssa. Mariée au petit-fils d'un magnat de l'industrie qu'on appelait le Henry Ford brésilien, elle peine à faire accepter son désir de devenir une chanteuse populaire à son époux et au milieu de la haute bourgeoisie auquel il appartient. Mais son entêtement est tel qu'elle est autorisée, en 1956, à enregistrer à São Paulo un premier disque dans un but caritatif, tout comme le récital qu'elle donne lors d'une soirée de bienfaisance dans une boîte de la ville. Mais entre-temps, le directeur de la maison de disques diffuse l'enregistrement à Rio et Maïssa est invitée à se présenter dans différentes radios. Le mari accepte du bout des lèvres, à condition qu'il l'accompagne. Pour les radios et pour le public, c'est vraiment une découverte de taille. Le nouveau magazine Manchete, le Paris Match brésilien, publie sur elle un article élogieux. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un an après, honnie de sa belle famille, elle se sépare de son mari afin de poursuivre seule sa carrière. « Quando vem a saudade », chante-t-elle dans le disque. « Durant les doux moments où je suis près de toi, je sais que je souffrirai quand viendra l'heure, quand viendra la saudade. » Et que ce sera la fin.
Nem que algum dia eu venha chorar e viver pelos cantos sem nunca te ver. Eu só quero o presente podendo te amar, pois futuro sem ti eu não vou querer ter. São tão poucos momentos que são como agora, em que estamos tão perto e te tenho pra mim. Só eu sei como dói quando chega a hora em que vem a saudade e eu chego ao fim. grande amor que não posso e não quero esconder. Vou vivendo esta vida, curtindo esta dor. Eu só quero que um dia tu possa saber o que é o amor. Esta vida, curtindo esta dor, eu só quero que um dia tu possa saber o que é o amor.
Em 1956, après la comédie musicale de Tom Jobim et Vinicius de Moraes, le théâtre noir est encore présent au Brésil lorsque Villa-Lobos reçoit une commande du festival Empire State des États-Unis pour composer la musique d'un ballet inspiré justement de la pièce de théâtre L'Empereur Jones de Eugene O'Neill. Ce festival était devenu celui de l'orchestre de la radio NBC que Toscanini venait de quitter et qui s'appelait alors The Symphony of the Air, c'est-à-dire l'orchestre sur les ondes radiophoniques, et qui plante alors chaque été, entre 1953 et 1958, son vaste et très élégant chapiteau dans le cadre idéal des montagnes de Catskills à Ellenville, dans l'État de New York. En avril 1956, la partition est prête, et les séances de travail commencent à Manhattan avec Villa-Lobos, le pianiste Alfred Heller, et l'extraordinaire danseur mexicano-américain José Limón, chargé de la chorégraphie. José Limón, qui doit aussi interpréter le rôle de l'empereur Jones, décide d'emblée de confier le ballet à des danseurs exclusivement masculins. Et après le départ du compositeur, il va travailler sur un enregistrement réalisé au piano. La pièce de Eugene O'Neill s'inspire d'un fait divers haïtien et compte 8 tableaux. Brutus Jones, un repris de justice, s'évade de prison et se réfugie dans une île des Caraïbes. Grâce à l'aide d'un aventurier anglais, il se fait passer pour un sorcier. La population le couronne alors empereur. Mais il devient vite un tyran meurtrier haï par tous. José Limón s'éloigne de l'anecdote et va à l'essentiel. Il fait de son ballet une sorte de rituel qui illustre comment l'homme peut se détruire lui-même en usant de la terreur contre ses semblables.
Thank you.
Jan Wagner à la tête de l'orchestre symphonique d'Odensee dans cet extrait de L'Emperor Jones de Heitor Villa-Lobos. Bientôt, la population se révolte contre l'empereur Jones et le menace de mort. Il tente alors de fuir à travers la jungle. Le souvenir de ses crimes et des hurlements de ses victimes le rend fou. Il épuise ses munitions contre des ennemis invisibles et les révolutionnaires vont l'abattre quand l'Anglais leur annonce qu'il est déjà mort d'angoisse et d'épouvante. Le New York Times a rendu compte de l'énorme succès public. Le ballet a été joué devant près de 10 000 personnes, installées sous le chapiteau ou assis en plein air sur l'immense pelouse en pente. Villa-Lobos a composé là une œuvre sombre, nocturne, crépusculaire. C'est un ballet d'ombre, dira un critique. Une marche inexorable dans la forêt vers la mort qui encercle le fuyard, victime à son tour de la terreur. L'extrait, avec The Symphony of the Air, dirigé ici par Villa-Lobos, a été enregistré sur le vif durant le festival de 1956 et la voix qu'on entend à la fin du premier acte est sans doute celle du danseur José Limón. Villa-Lobos dirigeait ici son ballet The Emperor Jones à la tête de The Symphony of the Air. Entre 1955 et 1956, il compose entre New York et Paris l'opéra Yerma, sur le texte en espagnol de Federico García Lorca. Un opéra qui lui a été commandé par une université américaine. Mais il ne le verra jamais représenté, car la création a lieu le 12 août 1971, au festival de Santa Fe, avec dans la distribution la toute jeune Federica von Stad. Entre chaque scène étaient projetées des peintures de Giorgio De Chirico. L'œuvre a été accueillie par une standing ovation du public. L'opéra a été créé au Brésil, à Rio, en 1983. En 2010, il a été représenté à l'opéra de Manaus lors du 14e festival d'Amazonie, dans une version chorégraphiée très épurée et particulièrement réussie. Le festival de Manaus est aujourd'hui l'un des grands festivals de musique et d'opéra d'Amérique latine. La soprano brésilienne Eliane Coelho chante ici le rôle-titre avec le ténor argentin Marcelo Puente dans le rôle de Juan le mari. C'est juste avant que Yerma, désespérée, ne l'étrangle alors que le rideau tombe. La captation sonore n'est pas excellente, mais elle donne une idée du grand lyrisme opératique de Villa-Lobos. « J'ai trouvé refuge, chante Yerma, entre ces quatre murs, afin de ne jamais me résigner. C'est seulement quand on m'aura attaché un foulard sur le visage pour que je ne puisse plus ouvrir la bouche, et quand on m'aura lié les mains au fond de mon cercueil, que je serai une femme résignée. » Un grand merci au Festival de Manaus en Amazonie pour cette archive enregistrée lors d'une représentation. Marcelo de Jesus était à la tête de l'Orchestre symphonique d'Amazonie. Quand on écoute cette scène de Yerma, on songe bien sûr au combat des femmes pour leur émancipation et leur lutte contre le machisme. Et dans les années 1950, le thème est d'actualité, notamment au Brésil, si l'on pense par exemple aux deux chanteuses populaires qui ont incarné alors ce combat. Maïssa, bien sûr, et surtout Dalva de Oliveira, harcelée par son époux, qu'elle a dû quitter au prix d'un scandale dont on la rendra coupable. En 1956, Dalva vit encore en Argentine, mais elle revient régulièrement chanter au pays où elle est adorée. Celle qu'on a souvent appelée l'Edith Piaf brésilienne est très émue en apprenant que la chanteuse française arrive au Brésil le 28 février 1956 en provenance de New York, où elle a eu un grand succès au Carnegie Hall. Elle donne une série de récitals du 9 mars au 23 avril au Golden Room et au Grand Théâtre du Copacabana Palace avant de rejoindre São Paulo. Son grand succès, c'est l'hymne à l'amour que Dalva de Oliveira met aussitôt à son répertoire et qu'elle interprète avec la même passion. « Se tu es o sonho dos meus dias, não importa, querido. Tu es le rêve qui remplit mes jours. Peu importe mon amour, les douleurs de la vie, je veux t'aimer, tout simplement.
Si o azul do céu escurecer, e alegria na terra fenecer. Tu és o sonho dos dias meus, se os meus beijos sempre forem teus, não importa, querido, o amargor das dores aos teus pés esparramar. Não importam os amigos, risos, crenças e castigos. Quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se distante a morte te encontrar, não importa, querido, porque eu morrerei também quando enfim a vida terminar. Dos sonhos nada mais resta. No milagre supremo, Deus fará no céu te
La magnifique voix de Dalva de Oliveira. En 1954, la ville de São Paulo est en deuil. Peu à peu s'éteignent les derniers pionniers du modernisme des années 20. Après Paulo Prado, en 1943, c'est à présent l'écrivain et journaliste Oswald de Andrade qui décède. Le 20 septembre 1954, il a 64 ans, il est invité dans un des premiers débats télévisés d'une grande chaîne de São Paulo. Il est déjà très malade. Et au beau milieu du débat, comme s'il disait au revoir à l'Assemblée, il se met soudain à déclamer un de ses plus beaux poèmes, une évocation de son cher São Paulo sous la pluie, avec le souvenir de Mario, l'autre Andrade, mort peu auparavant. Une atmosphère pleine de saudade et de nostalgie que l'on retrouve aussi dans la musique que Francisco Mignone, autre poliste mémorable, compose en 1956. Une seresta, une musique à écouter au crépuscule. Solidão, solitude. Tombe la pluie, tombe et qu'il pleuve. Ainsi la ville de mon amour se lave tout entière. Le Magnolia ouvre son parapluie, le parasol de la ville de Mario de Andrade. Tombe la pluie des gouttières du dimanche. La nuit tombe sur les jardins. Jardin de la lumière, jardin de la place de la République, jardin des plates-bandes. Nuit, nuit d'hôtel. Tombe la pluie, tombe et qu'il pleuve. Francisco Mignone, Seresta pour double quatuor à cordes, par le Quatuor La Catrina des États-Unis et le Quarteto Latino-Americano du Mexique. Le grand succès de la chanson brésilienne de l'année 1955, on le doit à Tom Jobim, quand il arrange un air écrit par un vendeur de savon portugais pour la belle Doris Monteiro. On reconnaît là les auteurs de mélodies populaires du Brésil qui avaient souvent plusieurs métiers. Dans ce « Do Ré Mi » que tout le monde fredonne dans le pays cette année-là, on entend bien sûr le futur Tom Jobim, celui de cette bossa qu'on dira nouvelle. Tu es corps et âme, façonné comme une chanson. Tu es beaucoup plus que ce dont j'ai rêvé. Tu es Do et Ré Mi Fa et Sol La Si. Tom Jobim, à l'époque, n'a encore que 28 ans. Et on est bien là, dans les années Kubitschek, à Rio de Janeiro.
Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordada. Saiba também que só você mora em meu coração. É de você e para você esta canção. É de você que vem a minha inspiração. Você é corpo e alma em forma de canção. Você é muito mais do que em sonhos eu já vi. Você é dó, é ré, mi, fá, é sol, lá, si. Você que vem a minha inspiração. Você é corpo e alma em forma de canção. Você é muito mais do que em sonhos eu já vi. Me fa, é sol, lá, si.
C'est avec ce Do Ré Mi, l'une des toutes premières chansons de Tom Jobim, qu'on se quitte aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet avec à la technique Stéphane Desmonts, attaché de production Nelly Portal, une émission qu'on peut bien sûr écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.